7 milliards de voisins. Avec Emmanuel Bastide, pour les voisins et les voisines.
Bonjour, bienvenue 7 milliards de voisins et de voisines. Aujourd'hui, on parle de certaines femmes chinoises qui vivent un casse-tête qui évoque beaucoup de choses à d'autres femmes du monde, faire carrière ou se marier. La question est loin d'être dépassée en Chine où des femmes issues de la génération de l'enfant unique, poussées par leurs parents à mener de bonnes études, sont aujourd'hui plus diplômées que les hommes, en tout cas pour celles qui ont fait des études, avec un salaire, une carrière. Il ne manque que l'essentiel aux yeux de la famille et de toute la société, un mari. Sauf qu'elles ne correspondent pas forcément aux critères des hommes qui rêvent de créatures douces, moins indépendantes, et qu'il existe aussi un âge, 30 ans, au-delà duquel on dit qu'une femme est périmée. Pour les mères qui se désespèrent, c'est une course contre la montre, rencontres arrangées, entremetteuses, croyances ancestrales. Alors comment vivre avec une telle pression? Les voisines, n'hésitez pas à nous appeler si ce casse-tête existe aussi un tout petit peu chez vous et si d'ailleurs ce mot de périmée existe peut-être dans votre langue. Je vous donne notre numéro de téléphone 33 1 84 22 71 71, c'est aussi le WhatsApp. Surtout n'attendez pas la fin de l'émission pour nous contacter. Surtout, c'est dès maintenant qu'on attend vos témoignages. Gilbert, qui est à Bafoussam au Cameroun, nous a posté ce message. Ce n'est pas un crime quand on est une femme célibataire à un certain âge. Il faut laisser les femmes en paix. J'en connais qui sont hyper jolies, cultivées, qui font une belle carrière, mais qui ont décidé de rester célibataires et parfois sans enfants. Les Chinois devraient comprendre que chaque être humain est libre de ses choix. Voilà, c'est le point de vue de Gilbert, mais bien évidemment, on aimerait bien avoir des voisines qui nous appellent, quel que soit d'ailleurs l'endroit où vous êtes dans le monde. Et les voisines, donc vous nous appelez 33 1 84 22 71 71. Je vous présente nos invités. Rosanne Lake, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes journaliste américaine pour The Economist. Vous êtes basée aux États-Unis, à New York à l'heure actuelle. Vous avez été correspondante en Chine pendant 5 ans et vous avez découvert... Je ne sais pas si on peut dire l'ampleur de ce phénomène au regard de la population chinoise, parce qu'évidemment, ces femmes chinoises qui ont cette pression au mariage ne sont qu'une minorité par rapport aux 650 millions de femmes chinoises, mais quand même, vous avez découvert l'ampleur de ce problème avec des collègues de bureau. Vous avez ensuite recueilli pas mal de témoignages de femmes qui vous ont vraiment raconté leur vie dans leur intimité. Et vous publiez « Casse-tête à la chinoise, mari ou carrière, le dilemme des femmes de l'empire du milieu » aux éditions François Bourin. Avec nous également Isabelle Attané, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes sinologue, démographe à l'Institut National des Études Démographiques, l'INED. Et effectivement, par rapport à ces 650 millions de femmes, c'est la population de femmes la plus nombreuse au monde, hein, dans un pays, ce phénomène-là concerne quoi aujourd'hui ?
Une toute petite partie des femmes, hein, en particulier, là on s'intéresse, je pense, à une tranche d'âge relativement jeune, mais on est dans les peut-être 1% au grand maximum. Ouais,
mais ça fait tout de suite beaucoup en Chine.
Ça fait tout de suite beaucoup, et à la fois socialement, je veux dire, c'est suffisamment nouveau comme phénomène pour attirer l'attention tant du public que des autorités chinoises.
30% de Chinoises de 25 à 30 ans ne seraient pas mariées, c'est un chiffre qui a quand même explosé ces 30 dernières années. Vous ne vous dites pas, vous n'avez pas le même chiffre, Isabelle Attané?
Moi, je suis...
C'est ce que dit un démographe dans votre livre, hein, Rosanne Lake, un démographe
moi,
chinois.
Moi, je suis à 3% des femmes de 35 ans qui n'ont jamais été mariées.
Ah oui, 35 ans.
Au-dessus de 35.
Ouais. D'accord, 35. D'accord. Voilà. Là, c'est carrément la classe d'âge au-dessus. Voilà, en tout cas, vous êtes bien avec nous pendant une heure et on vous rappelle notre numéro de téléphone 33 1 84 22 71 71 et tout de suite, je vous propose d'écouter le témoignage de Yun. Elle a grandi en Chine, élevée par une maman chercheuse, un père directeur d'université. Elle a aussi étudié aux États-Unis et aujourd'hui, à 34 ans, elle travaille dans un cabinet de droit commercial. Elle est toujours célibataire. Notre reporter Chaline Dupio l'a jointe par téléphone.
En 2012, j'arrivais à la fin de ma vingtaine et je me sentais comme investie d'une mission. J'imagine que c'était à cause de cet anniversaire très arbitraire, ce fameux cap des 30 ans. Il y a comme une honte liée au fait d'être célibataire, comme s'il y avait quelque chose qui n'allait pas chez nous, un problème à résoudre. Moi, j'ai toujours été bonne élève. J'ai toujours eu plutôt confiance en moi dans ce domaine, le domaine académique. Je savais ce que je faisais. Par contre, en ce qui concerne le domaine amoureux, pour lequel je n'avais pas de repère, je n'avais pas du tout confiance. À 27, 28 ans, je voyais 3 ou 4 garçons en même temps. J'essayais d'avoir le plus de rendez-vous possible avec des garçons différents dans la même semaine. Et puis, je les évaluais dans ma tête, en me demandant, est-ce qu'on va bien ensemble? Comment serait la vie avec lui? Je me mettais la pression avec ces questions, très tôt.
Comment vous expliquez que, à 27 ans, vous viviez aussi mal cette situation de célibat?
En Chine, à cet âge-là, on n'a pas besoin de voir autant de garçons en même temps. Mais par contre, normalement, on a eu au moins un copain ou une copine dans sa vie. Moi, ce n'était pas le cas du tout. Et puis, il y a cette pression de la société, l'idée que les filles ont une date de péremption, qui se rapproche dès qu'on passe le cap de la trentaine. Mes parents sont très éduqués. On peut dire qu'ils ont tous les deux réussi leur vie. Mais comme je suis fille unique, je reçois beaucoup d'attention de leur part. Et plus je vieillis, plus ils reçoivent des remarques à ce sujet. Et même s'ils ne s'inquiètent pas vraiment de mon célibat, leurs amis ou les membres de la famille leur rappellent qu'il va falloir m'aider à trouver une solution à mon problème. En chinois, il y a une phrase qui dit « Cela veut dire que même si en apparence on fait semblant d'écouter quelqu'un et de faire ce qu'il attend de nous, on peut très bien n'en faire qu'à sa tête. » Ma tante me dit souvent cette phrase. Elle s'inquiète vraiment pour moi. Même quand je lui dis que je vois des garçons, elle pense que je ne fais sûrement rien de tout cela. Et que même si je le faisais vraiment, je suis quelqu'un de trop difficile et que j'ai besoin d'être réaliste. Je pense qu'en Chine, il y a cette envie de se conformer au reste de la société. Et souvent, on tolère peu les parcours de vie individuels un peu différents. Même quand on est diplômé et qu'on a vécu à l'étranger.
Est-ce qu'on vous a organisé des dates, des rencontres forcées ?
Plus maintenant, parce que je pense que je deviens très impopulaire avec l'âge. Je ne suis plus la meilleure candidate pour ces rencontres arrangées. Mais quand j'avais la vingtaine, j'ai reçu beaucoup d'invitations pour ce genre de rendez-vous. Mes parents recevaient des propositions de leurs amis ou même de gens qu'ils avaient simplement croisés. En Chine, on n'hésite pas à vous poser des questions personnelles, même à des personnes que vous venez de rencontrer. Il n'y a pas de tabou sur ce sujet. C'est très commun que l'on vous demande par exemple « Vous avez un fils ou une fille ?» Et s'il pense à quelqu'un qu'il pourrait caser, il propose « Est-ce que vous voulez que votre fille rencontre le fils de mes amis ?» Je suis allée à plusieurs de ces rendez-vous arrangés. En général, on vous donne le numéro du garçon pour qu'on échange des SMS dans un premier temps. Je me souviens d'un de ces rendez-vous, organisé par une amie de la famille, que je n'aimais pas beaucoup. Elle m'avait fait rencontrer un étudiant qui terminait un doctorat au Canada. Il était de passage en Chine. Il n'arrêtait pas de parler de ses propres réussites et de ses attentes par rapport aux femmes. Il voulait une épouse qui l'accompagne au Canada pour l'aider à finir ses études et son doctorat et qui plus tard le soutiendrait dans sa carrière. Il m'a dit tout ça alors que je ne le connaissais pas du tout. Vous imaginez que cela m'a stoppé net dans mon élan. À l'époque, j'avais 27 ans. Alors voilà, passé 30 ans, j'ai décidé d'adopter une toute nouvelle approche. Je me suis dit, de toute façon, j'ai laissé passer la date butoir. Alors je n'ai qu'à prendre mon temps maintenant. Et j'ai commencé à me sentir soulagée. J'ai voulu une période de célibat pendant laquelle j'ai essayé d'arrêter de rencontrer quelqu'un. Mais c'était tellement agréable, tellement confortable, que j'ai laissé cette période durer 3 ans. J'ai commencé à voyager seule, beaucoup. Mais là, ça y est, je recommence à penser à nouveau, plus sérieusement, à rencontrer quelqu'un pour bâtir un avenir à deux. Mais voilà, ça veut dire que je ne vais pas me précipiter et je ne vais pas m'inquiéter non plus, en me disant que ça y est, tous les hommes intéressants sont pris. Je me dis que j'ai jusqu'à mes 40 ans pour me reproduire, pour faire des enfants. Alors je prends le pari. On verra bien.
Rosanne Lake, les femmes parlent facilement de la pression pour se marier qu'elles subissent en Chine.
Il y a 10 ans, par exemple, quand j'ai commencé à traiter ce sujet, pas trop. Elles en parlaient juste après le nouvel an chinois, parce que là, la pression était la plus chaude. Elles rentraient d'être avec leur famille, avec les voisins, avec les taxistes, tout le monde qui leur demandait pourquoi elles rentraient toutes seules. Et pendant cette période, il y a 10 ans, elles n'en parlaient pas trop. On sentait qu'elles, par exemple, quand elles rentraient au bureau, elles en parlaient moins, elles étaient tristes, mais... Au bout d'une semaine, deux semaines, elles étaient comme avant. Mais maintenant, ça a complètement changé. Il y a des filles, j'ai rencontré des filles en Chine qui ont par exemple 16 ans, qui disent « je suis déjà périmée ». Parce qu'elles savent déjà qu'avec tout ce qu'elles veulent faire, elles ne vont jamais se marier à l'âge qu'elles doivent se marier. Et c'est quelque chose qu'elles disent avec fierté. C'est genre « oui, j'ai 16 ans et je suis périmée ». Et ça me choque. Mais bon, en même temps, moi, je n'ai jamais vu le mot « shengnu », donc le mot original pour dire une femme périmée en chinois, j'ai jamais vu comme quelque chose de négatif parce que, bon, il est très moche comme mot, mais cette population, pour moi, elle représente quelque chose avec, c'est une population avec tellement de promesses que je l'ai jamais vu comme quelque chose de négatif. Et maintenant, de voir que les jeunes femmes disent, bah moi aussi, je pense que c'est plutôt un bon changement.
On en parlait avant que commence l'émission, ce mot-là, il existe, vous l'avez rencontré, ce mot « femme périmée », le mot « périmée », vous l'avez rencontré au Kenya, ce mot ?
Si, j'avais rencontré une femme qui venait du Kenya et elle m'a dit que l'équivalent c'est « homu sasusi » et que dans tous les dialectes, il existe un équivalent oui. De « homu sasusi » qui veut dire « femme périmée ».
Bon, alors les voisines, si vous nous écoutez là, et s'il existe un mot pour dire que passer une certaine date butoir, passer à un certain âge qui concerne toujours les femmes, évidemment, il faut être marié parce que sinon ça va être très 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 compliqué, appelez-nous au 33 1 84 22 71 71. Vous décrivez dans votre livre Rosanne Lake, il y a une femme qui raconte, vous parliez du nouvel an chinois parce que c'est parfois on reste un an sans aller voir sa famille, donc effectivement les voisins voient bien les évolutions. Une jeune femme qui vous raconte qu'elle préfère revenir dans sa famille pour les fêtes en prenant le train plutôt que l'avion. Quel est le rapport avec le problème d'être mariée ou pas?
Le fait, c'est que quand elle prend l'avion, elle rentre la journée. Et sa famille habite au fond d'une espèce de cul-de-sac. Et donc, quand elle arrive la journée, il y a tous les voisins qui vont la voir rentrer chez elle et qui vont ouvrir les portes et lui demander pourquoi elle n'est pas mariée. Elle me l'a décrit comme ça. Et quand elle prend le train, elle peut arriver le soir. Et donc, elle ment à sa famille. Elle dit « Non, j'ai peur de prendre l'avion toute seule, je vais prendre le train. » Elle n'est pas contente de faire ça parce qu'elle habite Harbin. Il fait très froid là. Sa famille habite loin de la gare de train. Donc sa sœur doit prendre la voiture le soir avec la glace, avec des conditions dangereuses pour aller la chercher. Mais elle le fait quand même parce qu'elle ne peut tout simplement pas faire face à ses voisins pendant la journée.
Ouais, y a une mère aussi qui dit à sa fille au téléphone « Dans 2 mois, c'est le nouvel an, il faut que tu aies trouvé d'ici là un fiancé. » Et sa fille lui dit « Oui, mais si je trouve comme ça très vite, j'ai de divorcer parce que je l'aurais mal choisi. » Elle dit « Oh, c'est tant pis, au moins tu auras été mariée. »
Oui. Cette phrase a fait vraiment un effet, même aux États-Unis, auprès des Chinoises qui sont nées aux États-Unis. Des parents chinois disent « mais c'est pas normal, mes parents habitent aux États-Unis depuis 35 ans, ils pensent de la même façon ». J'ai même entendu, ils m'ont dit « au moins tu aurais été mariée, vas-y, marie-toi ». C'est une case qu'il faut, c'est de les apparences, c'est... avoir un mariage, ta fille est mariée, t'es calme. Si elle s'y divorce après, au moins elle était mariée.
Isabelle Attané, la pression pour se marier existe dans de très nombreux pays du monde. Pourquoi le problème, il est particulier en Chine ?
Alors effectivement, cette pression sociale au mariage ou au moins à la mise en couple, comme dans la société française où il y a également une pression qui est peut-être un petit peu moins visible, mais également à la mise en couple, cette pression elle existe.
Dans la société française, il y a une pression pour faire des enfants. C'est quand même, c'est très clairement une société qui aime les enfants, qui aime faire des enfants. Mais il n'y a pas de pression au mariage puisqu'on est un des...
Non, je parle à la mise en couple, ce qui n'est pas forcément le mariage, c'est-à-dire à l'état civil, c'est-à-dire vraiment la mise en couple, puisque ça reste quand même le préalable. Dans la plupart des cas, le préalable à l'arrivée d'un enfant. Donc cette pression, elle existe partout, mais c'est vrai qu'en Chine, elle connaît, disons, une... un traitement à la fois médiatique et politique qui est particulièrement important, qui est vraiment croissant depuis en particulier une dizaine d'années. Donc ça tient, je veux dire, aux caractéristiques de la société chinoise qui reste quand même très attachée à la filiation au sein des familles, au fait de perpétuer, d'avoir des enfants, etc. Donc l'attachement à l'institution du mariage reste très fort en Chine, donc cette pression vient en partie de là. Mais il y a aussi il faut analyser cette pression qui est faite sur les femmes chinoises un petit peu en contrepoint à la situation du célibat masculin qui est croissant en Chine, alors qu'il concerne une catégorie de population, je dirais, à l'autre bout de l'échelle sociale, hein, c'est-à-dire que le célibat féminin en Chine sont essentiellement des femmes très diplômées de catégories socio-professionnelles supérieures, tandis que le célibat des hommes, concerne plutôt les hommes du milieu rural qui sont plutôt très défavorisés sur le plan socio-économique. Donc ça aussi, c'est quelque chose qu'on retrouve même dans la société française, hein. Le célibat masculin est plutôt dans les catégories les plus défavorisées, alors le célibat féminin dans les catégories plutôt favorisées. Et il y a, sachant que ce célibat masculin est quand même imputé largement au déséquilibre entre les sexes sur le marché du mariage, hein. Il faut savoir que dans les villes chinoises aujourd'hui, au-delà de 30 ans, parmi les célibataires, on a deux hommes pour une femme. Oui. Dans les campagnes, on atteint des proportions qui dépassent les 5 hommes pour une femme. Et ce déséquilibre est lié en partie au développement des avortements sexo-sélectifs à partir des années 80. Et donc, il y a une forme, en fait, de culpabilisation, je dirais, de la femme chinoise qui, quelque part, ne se rend pas disponible, j'ai envie de dire, eux, désespèrent de pouvoir se marier un jour. Alors qu'en réalité, je veux dire, le problème est absolument insoluble, parce qu'il est évident qu'une femme très diplômée a très peu de chances, et d'une, de rencontrer et de matcher, si l'on peut dire, avec un homme paysans au fin fond de la campagne chinoise.
Il y a un proverbe chinois qui dit, que vous citez dans votre livre, Zanlek, il est plus rentable d'élever des oies que des filles. C'est pour cette raison qu'il y a eu pendant des années beaucoup d'avortements sélectifs où on ne voulait pas des filles.
Tout à fait, c'est une des raisons. Alors ça tient aussi à la société chinoise qui sont vraiment des valeurs liées aux rôles sociaux de chacun des deux sexes, hein. C'est-à-dire que les parents chinois aujourd'hui continuent de projeter leur fils dans des avenirs sociaux professionnels qui sont très très ambitieux et exigeants, alors qu'il y a moins d'exigences de ce type de la part des femmes. Donc ces avortements sexo-sélectifs, oui, ils sont liés en partie à ça, parce que les familles, en général, sont beaucoup plus fières d'annoncer la naissance d'un petit garçon que d'annoncer la naissance d'une petite fille.
Alors, pour les femmes que vous avez rencontrées, Rosenlake, comment se pose le problème ? Donc, elles sont très diplômées, on l'a dit, parce qu'elles ont été enfants uniques, donc elles ont été couvées par leurs parents qui les ont poussées à faire de bonnes études, parce que, quitte à pas avoir de garçon, autant avoir une fille qui soit aussi diplômée qu'un garçon. Résultat, elles ont très très bien réussi, souvent, hein. Pas toutes, hein. Elles ont aussi parfois un diplôme lambda, mais enfin, elles ont quand même souvent un diplôme. En quels termes se pose le problème pour elles ? C'est-à-dire, elles disent qu'elles n'ont pas assez de choix, qu'elles ne trouvent pas l'homme qu'elles voudraient, ou tout bêtement, elles ne veulent pas se marier, elles veulent rester célibataires pour continuer à gagner de l'argent, pour être indépendantes, mener leur carrière comme elles en ont envie.
Ah, il y a plusieurs raisons, mais une raison que j'entends souvent, c'est « bu kaopu », que les hommes chinois... c'est-à-dire que they're not reliable.
Ils sont pas fiables.
Voilà, ils sont pas fiables. ils disent qu'ils vont faire quelque chose. Alors, c'est pas un problème, c'est unique à la Chine, aux hommes chinois. Mais ils disent bukaopo. Autre chose que j'entends souvent aussi, c'est zhiliang buhao, que la qualité n'est pas bonne. Une fois, je suis allée voir une émission qui, à l'époque, était vraiment tout le monde en Chine voyait. Ça s'appelait Fei Chang Wurao. C'était une émission de matchmaking. Et en fait, June, elle y était.
Donc, matchmaking, c'est-à-dire de rencontre.
Il y avait 13 filles et un homme. Ouais. Et toutes les filles devaient essayer essayer de séduire cet homme. Ou en fait, c'était plutôt l'homme qui devait essayer de trouver une fille pour voilà, se marier avec elle ou entrer dans une relation avec elle. Et je suis allée au studio voir une émission. Et j'étais avec une copine et sa maman. Et sa maman, à chaque fois qu'un nouvel homme sortait, la maman disait « Et celui-là, il est comment ?» Et ma copine disait « Je l'ai en bourra. » Et après, sa maman me demandait à moi « Et toi, qu'est-ce que t'en penses de cet homme ?» Je dis « Je l'ai en bourra. » Ces deux raisons-là, quand elles essayent de sortir elles-mêmes avec les hommes, elles trouvent que c'est les problèmes. Après, il y a aussi les parents, souvent, essayent de faire du matchmaking. Et ils ne savent pas très bien ce qu'elles cherchent leur fille. Et donc, autre chose, quand j'entends souvent, c'est « Mais au kanjue, il n'y a pas des sentiments. » Quand quelqu'un te présente quelqu'un et l'idée, c'est « On va se serrer la main et après, on va se marier. » Parce que parfois, c'est ce que les parents s'attendent. C'est « Tiens, c'est à l'âge et personne ne va se marier avec toi si on attend, alors voilà. » Elles ne veulent pas ça. Elles veulent sentir quelque chose. Elles veulent tomber amoureuses. Et si tu cherches dans l'histoire de la Chine, le rôle de l'amour, bien sûr, l'amour romantique, elle y était toujours, mais c'était pas très souvent dans le mariage. Tu ne te mariais pas parce que tu étais amoureuse de quelqu'un. Avec le confucianisme, ce n'était pas possible. Pendant la révolution culturelle, ce n'était pas possible. Donc, je pense que toute cette génération des filles, on les voit parce que c'est la première fois qu'elles ont le choix. Elles peuvent choisir de ne pas se marier. Avant, ce n'était juste pas possible. Et maintenant qu'elles ont le choix, elles veulent le faire comme elles veulent.
Ouais, elles ont le choix si leurs parents les laissent tranquilles. Est-ce qu'on peut parler d'injonction paradoxale, Isabelle Athanée, ou pas? Des parents qui ont énormément poussé leurs enfants, qu'ils soient filles ou garçons, à réussir pendant leurs études. D'ailleurs, Rosanne Lake, elle décrit même des filles qui racontent qu'elles prennent la pilule pas du tout comme moyen contraceptif, mais pour pas avoir leurs règles au moment des examens, hein, par exemple. Donc quand même, ça va assez loin, ce désir de réussite. Et en même temps, une fois qu'elles ont réussi, qu'elles ont un bon job, il faudrait tout mettre en stand-by, comme on dirait, ou se mettre en retrait pour trouver un mari. Ça s'apparente à quelque chose d'assez contradictoire, ou pas, Isabelle Athanée?
On peut pas considérer ça comme contradictoire, dans le sens où, effectivement, faire des études poussées ne devrait pas constituer un obstacle au fait qu'une femme puisse fonder une famille, rencontrer l'amour, etc. Ce qu'il faut pas perdre de vue aussi, je crois, c'est que les femmes chinoises, il y a une tradition extrêmement présente qui est la pratique de l'hypergamie sociale, c'est-à-dire que les femmes chinoises recherchent toutes quasiment un homme qui est issu d'une catégorie socio-professionnelle supérieure à la sienne. Et c'est vrai que forcément, c'est mathématique, hein, je veux dire, une femme qui est extrêmement diplômée et qui gagne très bien sa vie,
ouais, au-dessus d'elle, il n'y a pas beaucoup de monde.
Voilà, elle va avoir des difficultés à trouver un homme encore mieux qu'elle. Et il faut savoir que même si effectivement, de plus en plus de jeunes femmes chinoises, en particulier celles qui ont peut-être plus d'interactions avec la société occidentale notamment, recherchent de plus en plus souvent l'amour, mais elles restent quand même extrêmement pragmatiques dans leur choix d'un conjoint. Et par exemple, on sait qu'en Chine, aujourd'hui, un homme ne peut pas espérer se marier s'il n'est pas propriétaire de son propre logement, par exemple. Donc inutile de
et
vous
voiture.
Dire...
Et voiture aussi.
Ça faudrait faire un autre livre sur le désespoir des hommes chinois célibataires.
Tout à fait. Et la voiture coûte un peu moins cher que l'appartement.
Alors eux, non seulement ils sont célibataires, mais en plus ils n'ont pas d'argent, contrairement aux femmes célibataires.
C'est ça, exactement. Et pour eux, donc il y a une compétition vraiment très aiguë chez les hommes. Parce que très tôt maintenant, il y a des familles, des parents de garçons qui très tôt mettent de l'argent de côté, alors d'abord pour payer les études du fils et puis aussi de l'argent de côté parce qu'ils savent que si leur fils n'a pas un minimum d'épargne et de biens immobiliers, matériels, etc., il n'a aucune chance d'attirer l'attention d'une femme. Et peu importe son physique, à la limite, j'ai envie de dire, ce qui compte vraiment, ce sont les attributs.
C'est encore plus injuste. Il faudra qu'on fasse une émission là-dessus.
Sociaux et économiques.
Sur les hommes qui sont à la rue, question cœur et puis question porte-monnaie. Mais en tout cas, aujourd'hui, les voisins et les voisines, si vous êtes une femme très diplômée avec un bon boulot et que le mariage, c'est un truc compliqué pour vous, appelez-nous surtout tout de suite au 33 1 84 22 71 71. Queen's back.
有人能把我代替，看你站立都是跪着，而我始终保持站立。 Only way 赢过我的就是比我长得丑，可以尊重你，但前提你能抓住我的手。他们可以封住所有，但封不住我的口，偶尔也会失血，因为常常都在河边走。手机常年静音，接电话靠缘分，保持你的信心，这一路你来见证。承受着巨大的压力，还是喜欢在家里，我会改变我自己，包装上不可能是你。接下来你看我变化，乱拨通我电话，call me女王殿下。 Let's get it get it get it get it， 成果大丰收。当我穿梭穿梭巴黎米兰纽约时装周，穿上我的新衣北美一路飞驰到东欧。想要的不用靠别人，我只靠我的双手，双手放腰间，别随便给我贴标签，没有硝烟，走到哪都会是焦点。像在额头的猫眼，品牌都让我挑选，麻烦收起你高见，请开始你的表演。
Queen is back, Vava, chanteuse chinoise. C'est là le programme de notre réalisateur Romain Dubrac. Vous écoutez 7 milliards de voisins. On est en direct sur RFI et on parle des femmes chinoises, mais pas que, de toutes les femmes qui sont surdiplômées avec un très bon boulot et qui soit ne cherchent pas à se marier, qui veulent rester indépendantes, célibataires, ou bien qui ne trouvent pas d'hommes à leur goût et à leur niveau. Vous nous appelez au 33 1 84 22 71 71 si vous vous reconnaissez dans le phénomène de ces femmes chinoises, certes des femmes minoritaires en Chine, bien évidemment, dans l'immense population, 650 millions au total de femmes chinoises. Évidemment, les très diplômées et avec un très bon boulot sont une minorité. Evelyne nous appelle de Bruxelles. Vous êtes congolaise, Evelyne. Bonjour, Evelyne.
Bonjour.
Vous êtes originaire de RDC, vous avez 35 ans, et c'est quoi le problème alors ?
Oh, mais je voulais réagir, c'est par rapport à une anecdote. En fait, moi personnellement, donc je suis célibataire, sans enfant, je ne le vis pas trop mal. Mais un jour, je discutais avec ma mère, parce qu'apparemment elle cherchait une femme pour mes frères aussi, qui sont célibataires, qui sont un peu plus âgés que moi. Mmh. Et elle me disait que... les femmes qu'elle trouvait, ben, les filles, elles avaient peur, parce que quand elle disait l'âge de mon frère, qui avait presque 40 ans à l'époque, les filles avaient peur. Mmh. Et donc je lui dis, mais pourquoi elles devraient avoir peur ? Je dis, évidemment, si vous allez chercher des filles qui ont 20 ans, je peux comprendre, mais il y a des filles de 30 ans passées. Et ma mère me dit, ah non, je ne veux pas de femmes passer 30 ans pour mes fils, elles sont périmées.
Moi, je rigole. Donc elle a décrit sa propre fille finalement.
Et je lui dis, j'ai dit, merci pour moi. Alors elle s'est pas rendue compte en se le disant, mais c'est un peu l'idée qu'on a que quand on est une femme célibataire, passée 30 ans, sans enfant, c'est périmée.
Et ce mot, c'est quoi le mot en lingala ou en swahili ?
Je sais pas, je le connais pas, mais on avait la discussion en français.
D'accord, ok. Mais en tout cas, le concept, vous l'avez bien compris.
Oui.
Et alors, vous le disiez, j'ai 35 ans, je le vis pas trop mal d'être célibataire. Ça veut dire quoi ?
Bien sûr.
Ça veut dire pas trop mal ou pas trop bien, finalement ?
Pas trop mal, dans le sens où j'aimerais bien, évidemment, rencontrer quelqu'un, et tout, comme tout le monde, pour construire ma vie. Mais je suis pas non plus en dépression. Je me mets pas à la pression pour ça non plus.
Et vous avez le sentiment, je crois que vous travaillez comme cadre, hein, c'est ça ? Vous travaillez où finalement ? Au Congo ou en Belgique ?
Non, je travaille ici à Bruxelles. Donc comme cadre, voilà, j'ai un travail, je suis indépendante financièrement. Mais c'est aussi des choses qu'on entend quand on est passé 30 ans.
Vous avez le sentiment que pour vous, par exemple, le problème, c'est l'âge ou c'est le fait que vous ayez un boulot de cadre, que vous êtes diplômé, que du coup vous êtes peut-être plus exigeante aussi. Comment vous le situez, le problème ?
Mais moi, je pense que c'est un peu de tout. C'est que une femme indépendante, ça fait peur. Il y a des hommes qui se disent, oh là là, peut-être elle gagne plus que moi, peut-être elle est Oui, il y a ça, il y a l'âge aussi. Mais moi, je pense que c'est un peu de tout parfois. On se dit peut-être qu'elle est très exigeante. Ça, j'entends parfois, c'est que qu'on est très exigeante. Je dis, je ne sais pas si je suis plus exigeante qu'une autre femme. Mais je pense que c'est un peu de tout.
Rosanne Lake, vous avez entendu le témoignage d'Evelyne. Le phénomène n'est pas que chinois, bien évidemment.
Oui, évidemment. C'est un phénomène, je dirais, plutôt global. Et de plus en plus.
Alors, dans votre livre, il y a quand même, c'est le branle-bas de combat, hein, de casse-tête à la chinoise, mari ou carrière. Vous demandez à tout le monde, c'est quoi les critères pour être une épouse qui inspire un homme chinois. Parce que si tant est que les Chinoises aient envie de se marier. Parce que là, Evelyne nous disait quand même qu'elle aimerait bien, par exemple, même si elle n'est pas chinoise, elle aimerait bien trouver l'amour. Il y a une célibataire qui explique dans votre livre, les Chinois recherchent quatre qualités chez leurs épouses: belle, aimante et dévouée à son foyer, travailleuse, prête à fermer les yeux lorsque son mari la trompe. En résumé, dit la célibataire, ils veulent un conte de fées.
Oui, là c'est une célibataire, mais elle est aussi maîtresse. Donc elle parle d'un côté un peu. Je pensais que vous allez me demander auprès de l'homme que j'avais interviewé, qui disait qu'il cherchait une femme. Enfin, ses qualités, la qualité principale pour une femme, c'était il cherchait un yaourt naturel.
Ouais, c'est un banquier d'affaires de 35 ans qui vous dit ça. Hein. Nous, on aime une épouse comme on aime les yaourts, c'est-à-dire nature, car nous pouvons les aromatiser à notre convenance.
Oui, et ça revient à ce qu'Isabelle disait autour de l'hypergamie. Ça marche des deux façons. Un homme cherche quelqu'un plus pliable, quelqu'un qui peut molder un peu à sa vie.
C'est ça. Il vous dit, ma fiancée, parce qu'il a lui, il a une fiancée, oui. Elle est un yaourt nature, elle n'est pas exigeante, elle n'a pas vraiment d'idées, je l'aime bien parce qu'elle est facile à gérer. Ils ne veulent pas de problème.
Ce n'est pas tous les hommes en Chine qui
non,
pensent comme
bien
ça.
Bien sûr, bien sûr.
Mais oui. C'était un exemple. Ouais.
Alors, la méthode pour trouver un mari quand vraiment on a trop la pression ou vraiment que soi-même aussi on a envie de trouver un partenaire dans la vie. Vous le disiez, bon, l'amour, c'est un sujet compliqué. Comment ça se passe? Il y a des foires au CV, il y a des rencontres en ligne, évidemment. On fait intervenir aussi des croyances ancestrales. Comment ça fonctionne?
Il y a tout.
À l'échelle du pays, c'est-à-dire c'est...
Il y a, le soir, tu peux sortir avec tes amis en boîte et rencontrer des gens. Et le lendemain, peut-être, il faut que tu ailles boire un thé avec un garçon que ta maman a connu à travers un matchmaking website. Elle a chatté avec lui en faisant qu'elle était toi. Elle a dit, bah, tiens, demain à 4 heures, là, il faut boire un thé avec cet homme. Ça arrive aussi. Il y a tout. Et après, il y a, oui, les croyances, le Yuanfan, il y a le Baz, ce système avec ta date précise de naissance, de voir avec qui tu es compatible. Il y a beaucoup de parents qui croient. Il y a tout. Et après, il y a des agences qui te font dépenser beaucoup, beaucoup d'argent. Ils te disent, il faut qu'il gagne combien, il faut qu'il soit il faut combien d'eau, tout ça. Mais bien sûr, c'est juste pour gagner de l'argent.
Ça veut dire que le mariage est vraiment une affaire familiale, Isabelle Attané aussi.
Oui, le mariage reste essentiellement une affaire familiale. Hein. C'est rarement comme ça peut être dans les sociétés occidentales. Je veux dire, une histoire d'individu avant tout. Et c'est vrai que même dans les campagnes chinoises aujourd'hui, le nombre de familles qui recourent à ce qu'on appelle des entremetteurs ou des entremetteuses pour trouver une future épouse ou un futur époux pour leur fils ou pour leur fille. C'est une pratique qui est encore extrêmement fréquente, peut-être de l'ordre de 70% des couples qui se forment comme ça. Alors ce sont pas forcément des personnes dont c'est le métier, hein. Ça peut être une voisine, dont le cousin du beau-frère, etc., a entendu parler qu'il y avait une personne célibataire qui pouvait être éventuellement compatible avec la personne qui recherche un conjoint. Et c'est vrai que l'amour est rarement mis, je veux dire, en critère numéro un, et que souvent c'est effectivement plus la compatibilité, comme disait Rosanne, astrologique, mais c'est la compatibilité aussi économique, sociale. Je veux dire, les femmes aujourd'hui, notamment dans les campagnes, elles sont en capacité de négocier au moment de la formation d'un mariage, elles sont en capacité de négocier puisqu'elles sont moins nombreuses que les hommes. Donc en fait, fait, et que maintenant elles exigent toujours pareil, une maison jolie, rénovée, avec voilà un certain nombre de critères, mais c'est vrai que ça reste une affaire de famille parce que, comme je disais en début d'émission, je veux dire dans la tradition chinoise, la perpétuation des familles, je veux dire, est quand même quelque chose de fondamental. Et on a l'impression, enfin les célibataires en Chine rurale, on les appelle les branches nues, c'est-à-dire qu'en fait ce sont des arbres, presque des arbres morts aussi, hein, donc c'est pas non plus très valorisant.
J'allais vous poser la question parce qu'on entendait cette auditrice tout à l'heure, Evelyne, qui nous appelait. D'ailleurs, je vous rappelle notre numéro de téléphone. N'hésitez pas à nous parler du phénomène chez vous. Hein, si vous êtes une femme célibataire, pour qui ça pose problème. 33 1 84 22 71 71. Evelyne nous disait, pour mes frères à 40 ans, c'est aussi quand même un peu compliqué de trouver une femme. Est-ce qu'en Chine, les hommes célibataires ont aussi une date limite, une date de péremption ou beaucoup moins que les femmes?
Ah, clairement. Alors, c'est difficile de généraliser à l'ensemble de la Chine rurale, mais en tout cas, moi, j'ai fait plusieurs enquêtes dans différentes régions rurales de Chine, et clairement, les hommes disent tous que à partir de 28 ans, c'est quasiment terminé, quoi. Ils n'ont quasiment plus aucune chance de se marier.
Et pour vous, Rosane Lake, vous n'avez pas observé la même chose dans les grandes villes?
Dans les grandes villes, c'est un peu différent parce que là, il s'agit... Enfin, pour les hommes, c'est pas l'âge, c'est l'argent. Si vous n'avez pas suffisamment d'argent, si vous n'avez pas cette maison, si vous n'avez pas cette voiture, en chinois on dit enfin l'argent, la maison et la voiture.
Ouais, ça nous rappelle des trucs, hein, dans d'autres pays, ceci dit, je vais vous dire.
Ben voilà.
Oui, la différence c'est qu'en Chine c'est clairement dit, je veux dire. C'est
oui,
pas,
voilà, on ne le cache pas. Pas du tout. Et donc c'est pour eux c'est la pression économique. Et souvent, comme Isabelle disait avant, ils ne peuvent pas eux-mêmes avoir ça dès qu'ils sont nés. Et les parents commencent à mettre de l'argent à côté pour les études et aussi pour acheter une maison. Mais c'est dangereux parce que ça fait que, après, si l'homme veut se marier avec quelqu'un, mais la famille n'est pas d'accord, ils n'achètent pas la maison. Ils ont une espèce de pouvoir sur leur fils. Ils peuvent dire, bah, tiens, on ne l'aime pas. Et si on ne l'aime pas, tu ne te maries pas avec elle parce que tu n'auras pas d'argent. Donc finalement, le pouvoir, ça reste entre familles. Ça recycle un peu le confucianisme. La pression familiale et l'influence de la famille reste très forte.
Ouais, y a une des jeunes femmes que vous avez interviewées qui, elle, alors ses parents, qui n'ont pas énormément d'argent, ils veulent absolument lui acheter un appartement à Pékin alors qu'elle a de quoi se louer un logement. Puisqu'elle gagne sa vie, parce qu'ils lui disent comme ça, tu trouveras plus facilement un mari si tu es propriétaire de ton appartement.
Oui, parce que lui, il n'aurait pas besoin d'acheter un lui-même. Donc ça voulait dire qu'elle pouvait se marier avec quelqu'un de plus pauvre, parce que ses parents disaient, bah là...
Donc il y a plus de choix, évidemment.
Voilà, ouais. Plus de choix. Elle était un rêvet, c'était les soldes. Bah.
Voilà, parole d'une maman à sa fille en Chine, je ne veux pas te stresser, mais il est tout simplement impossible que je me détende tant que tu ne seras pas mariée. Voilà, c'est le sujet de l'émission aujourd'hui, et bien sûr n'hésitez pas à nous appeler au 33 1 84 22 71 71. On fait quoi quand on a un bon job, un bon diplôme? Et que bah, finalement, le choix, on s'en rend compte, est peut-être un peu restreint pour trouver un homme.
这一生漂泊四海看淡了今朝，越高高的挂不下。人生能有几次机会相聚生死少，轻易别轻易放掉。 把你定义，这快乐才是真谛，所以何必针锋相对，你看着弯又大又圆，想去就要去几杯，你看着面又长又宽，感觉镜花水月，我一生笑傲江湖，我只身闯江湖，何必分出胜负，这碗大千万别虚荣心作祟，真心话说话，不想给你机会，先别怼，就散了吧。听完这首歌就洗洗睡。
我这一生漂泊四海，看淡了今朝，月高高的挂无暇。人生能有几次机会，相聚甚是少，轻易别轻易放掉。
C'est Chris Wu chez 7 milliards de voisins, dont vous comprenez les paroles, Rosenlake, en chinois. Vous me disiez, oui, ce qu'il chante, c'est finalement très adapté à ce qu'on raconte, c'est-à-dire le rôle de l'argent.
Oui, il parlait des choses qui étaient trop cher. Alors oui, c'est normal pour les hommes. Souvent, il y a des choses qui sont trop chères. Et en fait, il y a des femmes célibataires qui disent, bah là, on n'a pas des petits copains parce que les choses sont devenues... Maintenant, on a Taobao, on a l'Internet, on peut acheter des choses très facilement et pas cher sur Internet. On n'a pas besoin des petits copains pour les acheter pour nous.
Alors, d'ailleurs, il y a la journée des célibataires. Hein,
si,
c'est bien ça, en Chine.
11 novembre.
Ouais. Et c'est la journée où le commerce en ligne explose.
Explose.
Et pourquoi donc hein?
Parce qu'il y a beaucoup de soldes pour conforter les gens célibataires. Mais il y a un petit secret, c'est pas que les gens célibataires qui achètent, c'est
oui,
tout le monde.
Maintenant. Bien sûr. alors, depuis le début de cette émission, on a l'impression que c'est un chassé-croisé de gens qui aspirent à trouver un partenaire, mais qui ne trouvent pas. Des hommes, vous nous les décriviez, Isabelle Attané, souvent trop pauvres, trop nombreux en plus en Chine, pour trouver une partenaire. Et puis des femmes, celles qui sont célibataires, trop diplômées, trop indépendantes, avec un trop bon job, pour trouver un homme qui pourrait leur convenir. Néanmoins, il y a quand même quelques histoires d'amour dans votre livre. Vous décrivez quand même une rencontre. Alors évidemment, il y a pas mal de Chinoises qui ont envie de, surtout celles qui ont étudié à l'étranger, qui ont envie de rencontrer un étranger qui se dise, vous le disiez au début de l'émission, finalement les Chinois, non, c'est pas qualitatif, ça me convient pas. Alors il y en a une qui rencontre un Coréen qui est un dieu de la cuisine, qui l'invite chez lui un après-midi ou à déjeuner, oui. Hein, et puis qui a oublié quelque chose pour cuisiner, donc il lui dit, je vais aller épicerie,
oui.
Et il la laisse toute seule dans l'appartement.
Elle le connaît à peine,
il va chercher. Et pendant ce temps, elle va ouvrir tous les placards,
oui,
pour savoir qui est cet homme.
Oui. Elle ouvre son frigo, elle va dans sa salle de bain, elle va dans son... Enfin, elle cherche, elle sniffe ses chaussures. Elle dit, mais tiens, ça sent bon. Cet homme, il est tellement propre. Il est coréen, bien sûr. Elle ouvre son frigo, elle voit tous les produits de beauté. Elle voit dans la salle de bain, il y a beaucoup de produits de beauté.
Mais elle se demande d'ailleurs vraiment si c'est un homme, d'ailleurs. Parce qu'elle trouve qu'il se met trop de produits de beauté.
Je pense qu'elle se demande si elle est une femme. Parce que cet homme, il est tellement propre. Il a tellement de produits de beauté, oui.
Et alors ?
Et alors, c'est la dernière fois qu'elle voit cet homme. Enfin, ils déjeunent ensemble et après, elle est très contente. Elle a très envie de le revoir.
Elle est sous le charme quand même, là.
Elle est complètement
sous
le charme.
Il cuisine très très bien.
Il cuisine très bien. Il est très beau, surtout.
Oui.
Il est coréen.
Et là, ça pourrait fonctionner, alors ?
Je pense qu'elle peut-être, elle montrait trop d'intérêt. Et lui, comme c'était un homme coréen, et en Chine, les hommes coréens, ils ont un avantage, parce que les femmes chinoises aiment beaucoup les séries de télévision coréennes. Et trouvent que les hommes coréens sont très beaux, et elles sont très romantiques, les séries coréennes. Donc, il y a même des restaurants à Pékin où tu peux manger du poulet frit à les styles coréens, au milieu de la nuit, parce que les protagonistes de ces émissions font ça, dans les émissions coréennes. Et donc, je pense que lui, il a le choix. Et elle s'est tout de suite montrée très très intéressée, je pense qu'elle a...
Ouais, bon, il lui a fait peur. Elle lui a fait peur. Isabelle Attané, toute cette affaire de femmes célibataires qui ne parviennent pas à se marier, qui rencontrent une énorme pression familiale, sociale de toute la société chinoise, ça arrange les autorités chinoises ou pas finalement ? Comment c'est vu par la sphère politique ?
Je dirais pas que ça arrange les autorités chinoises, mais en tout cas, les autorités chinoises et aussi également les médias chinois, hein, je veux dire la société civile dans son ensemble, s'est un petit peu emparée du sujet en amplifiant, je pense, beaucoup les conséquences au niveau de la société, parce que comme je disais tout à l'heure, c'est vraiment à analyser en fait en contrepoint à la situation de ces célibataires hommes du milieu rural, et je dirais que le traitement qui en est fait bien souvent est quand même très très je veux dire révélateur de ce que reste la société chinoise, c'est-à-dire une société très sexuée voire sexiste, et que très souvent, je veux dire, ce célibat, ces femmes célibataires, ces shengnus, elles sont finalement responsables de leur situation. En tout cas, c'est très
vous n'avez aucune excuse. Ça. Vous avez des diplômes, vous avez un boulot, donc, mais aucune excuse de ne pas trouver un homme, d'autant plus qu'ils sont en surplus en Chine.
Tout à fait. Tandis que le traitement qui est fait du célibat masculin est plutôt, tend à qualifier ces hommes de victimes de leur situation. Donc, c'est vraiment un contrepoint, je trouve, qui est très très révélateur de cette très forte ce sexisme, on peut dire, hein, de la société chinoise encore aujourd'hui.
Isabelle Attané, Rosanne Leck, en conclusion, vous direz que la liberté de rester célibataire, c'est finalement peut-être un peu le dernier bastion à conquérir pour des femmes chinoises, éduquées ou pas d'ailleurs.
C'est-à-dire que cette liberté, elle l'ont fondamentalement. C'est-à-dire, mais après, c'est vrai que la société l'assumer, et puis, assumer tout ce qui va avec le célibat, hein, c'est-à-dire une certaine forme peut-être parfois de solitude ou de. Elles en ont le droit, mais c'est que c'est à la société d'évoluer pour ne pas faire de ces femmes des monstres, ou des déformations.
Des femmes vraiment célibataires, vous en avez rencontré? Des femmes qui disent non, moi je veux rester célibataire, qui ont dépassé la date de péremption, comme on dit. À quoi aspirent-elles? Comment elles vivent? Est-ce qu'elles vivent entre elles, entre communautés de célibataires?
Il y en a certaines, mais la plupart veulent vraiment rencontrer quelqu'un. Mais je dirais que ce débat dont on parle, je pense que c'est pas le dernier, la dernière frontière, c'est peut-être la première. Parce que pour moi, ce que j'ai appris en passant du temps en Chine et en étudiant ce livre, c'est vraiment que le mariage, c'est un droit humain. Et on n'y pense pas souvent. Le fait de choisir quand, avec qui et si tu te maries, c'est vraiment un droit très très basique humain. Et il y a beaucoup de femmes dans le monde qui n'ont pas ce droit. Il y a même des femmes en Chine qui ne l'ont pas toujours. Si on parle des termes niveau social. Et donc une fois qu'elles ont ça, je pense que c'est le début. Imaginez ce qu'elles peuvent faire avec ce simple droit. Beaucoup, je pense. Je pense que c'est le début de... Elles ont déjà fait pas mal. Cette première génération qui a eu le choix. Donc, je pense qu'elles vont se multiplier. Ça, c'est sûr. Et j'attends avec impatience de voir ce qu'elles arrivent à faire. Parce que ça va nous surprendre, sûrement.
Merci en tout cas à toutes les deux. Alors la prochaine fois, effectivement, il faudra consacrer une émission uniquement aux hommes, hein, qui ne parviennent pas à trouver une épouse. Pour des raisons aussi, d'ailleurs... Et malheureusement, très bassement matériel. Merci à vous, Rosanne Leck. Vous publiez Casse-tête à la chinoise, mari ou carrière, le dilemme des femmes de l'Empire du Milieu. C'est publié chez François Bourin. Il y a énormément, énormément d'histoires intimes de femmes dans ce livre. Merci à vous, Isabelle Attané, sinologue, démographe à l'Institut National des Études Démographiques. Et merci à toute l'équipe, Cécile Lavolo, Delphine de Dianous, Romain Dubrac, Raphaël Lazizi. Vous pouvez réécouter nos émissions sur l'appli RFI Pure Radio, à la rubrique émissions, et bien sûr nous retrouver sur tous nos réseaux sociaux. Demain, 7 milliards de voisins, à l'occasion de l'élection présidentielle en Tunisie, on s'intéressera à la jeunesse tunisienne, entre inégalité et chômage, même si d'ailleurs le chômage des jeunes n'est pas tellement un thème de campagne pour cette campagne présidentielle. On parlera aussi, bien sûr, des jeunes femmes. Voilà, merci à vous tous de votre fidélité. Je vous dis à demain, en direct, même heure, même endroit, les voisins et les voisines.